Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. 26 morts et des centaines de personnes atteintes d'affections pulmonaires graves, c'est le bilan de la cigarette électronique aux États-Unis où plusieurs États ont décidé de son interdiction. De même que l'Inde, l'un des pays les plus peuplés au monde, l'Organisation mondiale de la santé la considère comme incontestablement nocive, bien que probablement moins toxique que la cigarette classique. Et pourtant, des tabacologues, des addictologues, notamment en France, expliquent que le vapotage a permis à des dizaines de milliers de personnes de se désaccoutumer du tabac, lequel tue 75 000 personnes chaque année dans le pays. Faut-il interdire le vapotage? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Gérard Oduro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association DNF pour un monde zéro tabac. Et Bertrand Dotzenberg, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes ancien pneumologue à la Pitié-Salpêtrière et tabacologue. C'est parfois un petit peu difficile de retrouver ces petits dans le dossier de la cigarette électronique. Alors je vais poser la question de manière péremptoire, bien que je sais qu'il n'y a pas de réponse simple. Bertrand Dotzenberg, c'est dangereux ou c'est pas dangereux ?
La cigarette électronique sera toujours plus dangereuse que de rien prendre, comme prendre des antibiotiques quand on n'est pas malade. Il ne faut pas prendre d'antibiotiques quand on n'est pas malade. En revanche, quand on a une dépendance tabagique et qu'on n'arrive pas à arrêter, la cigarette électronique a énormément plus d'avantages que d'inconvénients. Et c'est un des produits qui est utilisé par les fumeurs en France pour arrêter de fumer, avec ou sans médecin.
Gérard Oduro, selon vous, est-ce qu'on risque quelque chose à utiliser une cigarette électronique ?
C'est sûr que c'est pas quelque chose d'anodin. En plus, c'est une addiction, au même titre que le fait de fumer du tabac. Mais le problème, c'est que c'est également une aide au sevrage tabagique importante. C'est la meilleure parmi toutes celles qui sont utilisées, comme les patchs ou les produits. Et c'est sûr que si elle aide à arrêter de fumer, il faut lui laisser uniquement cet objectif. Il ne faut pas l'en détourner et en faire quelque chose, un objet qui serve de plaisir. Mmh. L'addiction n'a jamais eu pour vocation à être quelque chose qui donne du plaisir. Donc la cigarette électronique, oui, j'y suis très favorable, mais à condition qu'elle ne soit pas détournée de son objectif réel.
Ces morts et ces malades aux États-Unis, Bertrand Dotzenberg, ça correspond à quoi ? C'est un mauvais usage, usage détourné ?
C'est un problème tout à fait différent. Quand on parle de cigarette électronique, on parle d'une cigarette électronique, donc un appareil dans lequel on met un liquide qu'on appelle e-liquide, avec de la nicotine. En Europe, ils sont parfaitement contrôlés, on sait ce qu'il y a dedans, ils sont tous déclarés à l'agence sanitaire française qui est l'ANSES. En revanche, aux États-Unis, tous les accidents qu'il y a, c'est des gens qui utilisent la même cigarette électronique, mais pour y introduire du cannabis, et même du cannabis un peu vérolé, j'allais dire, et pas propre. Donc là, il y a des accidents qui sont graves, parce que maintenant on est à 38 morts, et puis il y en aura sûrement une cinquantaine ou une centaine de morts, mais c'est comme si vous accusiez un verre dans lequel on a mis du cyanure et que vous avez bu, d'être la cause de l'accident. L'accident, c'est d'avoir mis des poisons dans une cigarette électronique. La cigarette électronique n'est que le vecteur de ce poison, mais c'est un problème très sérieux et qu'il faut regarder avec grande attention.
C'est un problème de régulation, d'encadrement qui n'est pas suffisant aux États-Unis, Gérard Oduro ?
Il n'y a pas eu d'encadrement du tout. Il y en a un en Europe et plus particulièrement en France, où là c'est très suivi. Et par contre, ce qui est inquiétant, c'est que c'est effectivement un contenant à l'intérieur duquel on met des produits qui sont des e-liquides, qui sont contrôlés, mais chacun peut y mettre malgré tout ce qu'il veut. Il peut commander par Internet.
On peut faire sa propre tambouille.
Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez en ce moment un gros problème dans l'ouest de la France. En Normandie, c'était avant en Bretagne, c'est passé maintenant en Normandie avec Bouddha Blues. Où les gamins prennent une drogue extrêmement puissante qui crée des gros problèmes. Et l'enseignement public dans cette région est très inquiète de l'évolution. On a également dans la région marseillaise Canavap, qui avait commencé à produire des cigarettes électroniques pour fumer du cannabis. Qu'il soit d'une sorte ou d'une autre, c'est pas important. C'était pour fumer autre chose, en tout cas, qu'un e-liquide traditionnel. Et donc, on ne maîtrise pas ça, par contre. Et ça, c'est très gênant.
Il y a donc des usages dévoyés, si je peux dire ça comme ça. Finalement, on n'a pas beaucoup de recul sur les dangers réels ou supposés de la cigarette électronique, Bertrand Dotzenberg. Sur le long terme, comment savoir si c'est finalement dangereux ou pas dangereux, même avec des produits contrôlés ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, un grand nombre d'utilisateurs de cigarettes électroniques l'utilisent pendant 3 mois, 6 mois, 1 an pour s'arrêter de fumer, l'abandonnent après. Donc, il y a un petit pourcentage qui continue à utiliser au long cours, et c'est surtout le cas des jeunes qui l'utilisent non pas parce qu'ils veulent arrêter de fumer, mais parce qu'ils veulent fumer autrement. Donc, c'est un problème un peu différent. Il n'y a pratiquement pas, en revanche, ce qui était notre crainte au début quand c'est arrivé, de non-fumeurs qui l'utilisent. C'est très, très, très marginal. Donc, à court terme et à moyen terme, on sait qu'il n'y a pas de danger. Après 2 ans, 3 ans, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas le recul suffisant. Mais a priori, il n'y a pas de crainte spécifique à avoir. Mais c'est mieux de rien prendre. Ça, il n'y a pas de discussion. Comme médecin, je peux vous dire qu'après 1 an, 2 ans de cigarette électronique, il faut arrêter, comme il faut arrêter les substituts nicotiniques. Tout à l'heure, Gérard Durot disait que la cigarette électronique marchait mieux que les médicaments. C'est pas tout à fait vrai. La cigarette électronique, c'est un moyen de prendre de la nicotine, qui est la même nicotine que dans les médicaments. Mais comme les malades aiment bien ça,
il a le réflexe de succion, si je peux dire ça.
Non, mais comme les gens aiment bien, c'est une forme qui est plaisante de prendre la nicotine, ce qui est un inconvénient parce que c'est plaisant pour Gérard Durot, mais ce qui est un avantage pour moi, parce que comme ça, ils le prennent plus longtemps, ils s'arrêtent plus de fumer. Mais après, il faut que le plaisir doit s'arrêter un jour.
Gérard Oduro, l'effet de la cigarette électronique sur le long terme, on n'a évidemment pas les études qui vont avec, hein, puisque ça existe depuis une douzaine d'années maximum, ça vous inquiète ?
Oui, c'est, pour moi ça m'inquiète, mais ça m'inquiète depuis le début. C'est-à-dire que je pense que dès le début, on aurait dû considérer que la cigarette électronique était un aide au sevrage tabagique et devait passer par une autorisation de mise sur le marché, donc vérifiée par l'autorité de santé publique qui s'en occupe, la NSM, pour être certain que ce produit ne nuit pas à la santé. C'est pas le cas, et donc comme c'est pas le cas, on est obligé d'attendre encore pas mal de temps pour savoir. Alors il y a pas mal d'enquêtes qui sont effectuées, certaines sont effectuées sur des bases qui sont un peu contestables, mais d'autres ne sont pas contestables du tout, et on découvre chaque jour un effet différent, négatif, soit sur l'appareil respiratoire, soit sur l'effet cardiovasculaire, et donc j'estime que il faut rester méfiant malgré tout par rapport à l'utilisation.
La cigarette électronique, et en particulier une certaine marque qu'on ne va pas citer et qui commence à s'implanter en Europe, pose un vrai problème de santé publique aux États-Unis, notamment chez les jeunes. Il y a des inquiétudes très importantes, on peut les comprendre, Bertrand Dotzenberg.
Tout à fait. Jusqu'à il y a 3 ans, les jeunes Américains qui prenaient une cigarette électronique prenaient une fois sur deux des produits sans nicotine du tout. Et là, arrivé sur le marché, un petit produit design dans lequel il y a 57 mg par nicotine, 2 mg par millilitre de nicotine, ce qui est 3 fois plus que la dose maximum autorisée en Europe. Et cette cigarette électronique pose des problèmes quand elle est délivrée à des non-fumeurs. Par contre, ça peut être une aide quand c'est des gros fumeurs qui arrivent pas à arrêter avec la cigarette classique. Ça peut aider parce que, et cette cigarette est particulière d'abord par son design, la façon dont elle marche.
On dirait une petite clé USB, hein, voilà.
Un peu de fumée. Et puis aussi par le fait qu'elle n'utilise pas de la nicotine comme les autres, mais de la nicotine qui est acidifiée, un sel de nicotine. Et les sels de nicotine peuvent passer la gorge sans irriter la gorge. Donc, on peut prendre des plus grandes doses sans avoir les effets de trop forte dose qu'on prend avec la nicotine classique.
Et en plus, Gérard Oduro, il y avait des parfums, évidemment, qui incitaient peut-être les jeunes à en consommer davantage.
Oui, tout à fait. Mais enfin,
c'est en train d'être régulé même aux États-Unis. Ça.
C'est la conception même de cet appareil qui est fait pour absorber donc du sel de nicotine. C'est cette conception elle-même qui est dangereuse et qui a produit des effets d'ailleurs catastrophiques aux États-Unis, puisque là, il y a eu un nombre colossal de jeunes qui s'y sont mis et qui sont devenus addicts au produit.
Bertrand Dotzenberg, vous voulez
le problème, c'est de savoir est-ce que la cigarette électronique est une porte d'entrée en tabagisme chez les jeunes ou ce n'est pas une porte d'entrée en tabagisme. Certains disent sur des études qui sont pour moi faussées au départ que c'est une porte d'entrée. Moi, je constate que si c'était une porte d'entrée depuis 8 ans, il devrait y avoir plus de jeunes qui fument. Or, aux États-Unis, maintenant, on a moins de 5% de fumeurs quotidiens chez les lycéens en fin d'études. Il y a une diminution en Angleterre, une diminution en France. Alors chez certains, ça peut être peut-être une porte d'entrée, mais chez beaucoup d'autres, c'est un concurrent. Et globalement, il n'y a pas de catastrophe. La catastrophe sanitaire annoncée depuis 5 ans n'a pas lieu. Et l'Inde, qui a interdit complètement la cigarette électronique, c'est les gros pays producteurs de tabac qui ont tendance. C'est-à-dire que dès qu'il y a les producteurs de tabac n'aiment pas trop la cigarette électronique, qui est un produit beaucoup, beaucoup moins addictif que la cigarette et qui permet à beaucoup de fumeurs de quitter l'addiction à la nicotine. Quelqu'un qui passe du tabac à la nicotine, au bout d'un mois, à la cigarette électronique, au bout d'un mois, il va prendre un tiers de nicotine de moins, deux mois, deux tiers de moins, et trois mois, 90% de nicotine de moins.
J'allais vous poser la question, et vous avez commencé à répondre, Bertrand Dotzenberg, mais Gérard Oduro, je vais vous demander votre avis. Quel est le rôle des géants du tabac là-dedans?
Alors le rôle est très important à l'heure actuelle, puisque c'est également un élément que depuis le début je soulève, qui est extrêmement dangereux, c'est que c'est une porte d'entrée, par contre, là c'est certain, pour l'industrie du tabac dans cette logique, et non seulement dans cette logique, mais en plus en faisant ça, ils se font passer pour des gens qui vont aider la santé publique à réaliser une réduction du risque, et donc ils se présentent comme des gens qui vont même participer à Mois sans tabac, ils l'ont souhaité à une époque.
Oui, on est au mois de novembre, je le signale, c'est le Mois sans tabac en France.
Hein, voilà. Ouais. Alors maintenant, ils se sont mis à faire le Mois de la cigarette électronique à la place de Mois sans tabac. Et on a maintenant une bonne partie de ces cigarettes électroniques qui sont distribuées dans les débits de tabac et qui sont pour la plupart des cigarettes électroniques, mais pas de la même manière que les cigarettes électroniques avec un e-liquide, mais avec une petite cartouche de tabac à l'intérieur. C'est donc du tabac chauffé, ça n'est plus du e-liquide et c'est quelque chose de complètement différent et de là, strictement dangereux.
Ça a été démontré. En l'occurrence, c'est fumé. Bertrand Dotzenberg, vous voulez ajouter quelque chose?
Pas tout à fait d'accord. Premièrement, donc, au départ, en France, la cigarette électronique, c'était pas du tout l'industrie tabac. Et l'industrie tabac est venue secondairement, à partir de 2012-2013, racheter un petit peu toutes les boîtes et de façon massive, parce que les puissances d'achat de l'industrie du tabac est énorme. Après, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Oduro, que l'industrie tabac se sert la cigarette électronique pour avoir pour casser les frontières. Il a sorti un produit qui est le tabac chauffé, qui est pas du tout une cigarette électronique, puisque c'est un produit qui brûle, qui fait de la fumée et qui n'a strictement rien à voir avec la cigarette électronique.
C'est fumé, en fait. C'est ce
qui a exactement la même forme et qui fait croire que c'est la même chose, alors que le tabac chauffé est un produit qui donne des pics de nicotine et qui crée la dépendance. La cigarette électronique, c'est une délivrance toute plate de nicotine qui plutôt guérit la dépendance. Un produit d'entrée en tabac, un produit de sortie. Par contre, la confusion organisée par l'industrie du tabac entre les deux produits est énorme et on leur a ouvert un boulevard, c'est vrai.
Ça veut dire que les géants du tabac sont sur les deux marchés, ils marchent sur deux pieds, c'est l'idée, Gérard Oduro?
Oui, et ils se servent de l'un pour valoriser plus tard l'autre et surtout pour revaloriser leur image de marque. Depuis ces derniers temps, depuis une quinzaine d'années, on avait réussi à vraiment démontrer à l'opinion publique que ceux qui fabriquaient ces cigarettes étaient vraiment des gens qui ne souhaitaient qu'une chose, c'était vendre leurs cigarettes en tuant le maximum de personnes, y compris des gamins, et en faisant une publicité éhontée vis-à-vis des plus jeunes pour les faire rentrer dans le tabagisme. Je voulais revenir quand même sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'entrée dans le tabagisme ou la sortie du tabagisme. On a eu de 2014 à 2017, une stagnation de la consommation de tabac, rigoureusement égale d'une année sur la troisième année. Et pendant ce temps-là, on a eu 1 800 000 vapoteurs qui sont rentrés dans la logique. Il se trouve donc que le vapotage de ces 1 800 000 n'a pas fait régresser la consommation de tabac. Ça n'a pas fait régresser du tout.
Vous voulez dire qu'il y a plus de gens qui sont entrés dans l'addiction à cause de ce dispositif?
Je ne peux pas savoir s'ils sont rentrés, s'ils sont sortis. Ce que je sais, c'est qu'il y en a une bonne partie déjà qui, à l'époque, étaient des vapoteurs qui fumaient également. Ils avaient les deux. Donc, ils continuaient à être fumeurs tout en étant vapoteurs. Depuis, ça évolue. Il y en a de moins en moins qui restent encore fumeurs en étant vapoteurs. Mais au total, en tout cas, sur ces 4 années, on n'a aucune diminution du nombre de fumeurs. Par contre, on a 1 800 000 vapoteurs de plus. Alors que la simple opération qu'on a faite en mars 2018 d'augmenter les prix de 1 euro, de 7 à 8 euros pour le paquet principal, elle, en l'espace de 8 jours, a fait tomber de 11,5% la consommation de tabac.
Bertrand Dotzenberg, vous voulez ajouter quelque chose?
Jusqu'en 2013, les cigarettes électroniques ne délivraient pas bien la nicotine, ne marchaient pas, elles fuyaient, etc. Et c'était pas une aide pour l'arrêt du tabac, parce qu'il y avait tellement d'ennuis avec ça. Il y a quelques bricoleurs qui jouaient avec pour s'amuser à faire la fumée, mais ça livrait pas. Ça marche vraiment depuis de fin 2013-2014. Hein. Et donc, c'est tout à fait nouveau que ça marche. Et donc, on peut pas s'appuyer sur les chiffres d'avant pour tirer des statistiques.
Mais c'est bien pour ça que j'ai pris 2014 à 2017 comme exemple. C'est dans cette période où on a eu une...
Ça dépend aussi des politiques qui sont faites pour le tabac, etc. Il y a, quand on interroge avec l'eurobaromètre, on a 23% des vapoteurs qui sont des ex-fumeurs, ex-vapoteurs. En France, selon le dernier sondage, on a 1,2% de la population française, c'est-à-dire 700 000 personnes, qui sont des fumeurs, qui ont été vapoteurs et qui arrêtent. Et on n'a quasiment pas de non-fumeurs qui sont devenus vapoteurs. Donc c'est quand même un produit où il y a plus de sorties que d'entrées en tabagisme.
La régulation européenne, et en particulier française, elle est suffisamment protectrice pour les consommateurs, Gérard Oduro ?
Non, on a malheureusement une législation, d'abord une directive européenne qui était très claire. Quand c'est rentré dans la loi française, la législation française a adopté toutes les caractéristiques puisqu'elle y était contrainte. Mais depuis octobre 2017, il y a eu une modification essentiellement dans la possibilité de vapoter n'importe où. En gros, à l'heure actuelle, on peut vapoter au cinéma, on peut vapoter au théâtre, on peut vapoter au café, au restaurant, etc. Et or, il se trouve qu'effectivement, c'est beaucoup moins désagréable d'avoir à côté de soi quelqu'un qui vapote, ça sent beaucoup moins, mais quand vous en avez 15 ou 20 autour de vous, c'est complètement différent. Il y a une odeur qui est très désagréable, qui est...
Alors, j'ajoute quand même qu'il est interdit de vapoter sur les lieux de travail, en tout cas, c'est notre cas ici à RFI. Bertrand Dotzenberg, il faut appliquer la même loi de la même manière.
Non, mais la directive européenne ne concerne absolument pas les problèmes nationaux. Si, le vapotage, tout à fait, le produit, mais pas du tout le vapotage en lieu public et tout ça, qui dépend uniquement du droit national. Et il y a des politiques très différentes en Europe. Et en Europe, c'est sûr que Gérard Duro n'est pas très d'accord de ce qui se passe en France sur l'interdiction du vapotage, l'autorisation dans la salle d'attente de mon service d'hôpital. Maintenant, on pouvait vapoter. Mais l'assistance publique autour de Paris a décidé qu'on ne pouvait pas vapoter dans les salles d'attente des hôpitaux. C'est une décision qui est de règlement intérieur et qui n'est pas légale.
Ça veut dire, Gérard Oduro, que selon vous, il faudrait appliquer les mêmes limitations à la consommation au vapotage qu'à la consommation de tabac ?
On pourrait
sur les terrasses de café, par exemple ?
On pourrait avoir quelques exceptions quand c'est à l'air libre. Mais par contre, je ne considère pas comme normal que l'on puisse au cinéma s'amuser à vapoter ou au théâtre ou au travail. Parce qu'au travail, il n'y a que les open space dans lesquels on ne puisse pas fumer. Vous pouvez fumer là-dehors, normalement, sauf si vous entrez dans votre
règlement
entreprise.
Intérieur.
Voilà, votre règlement intérieur vous l'interdit. Donc il se trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis dans leur règlement intérieur l'interdiction, ce que je trouve pas normal. Une loi, c'est une loi, il n'y a pas besoin d'avoir d'exception, sauf si elles sont très précises et elles concernent des lieux tout à fait particuliers.
Bertrand Dotzenberg, je ne sais pas si vous allez être d'accord ou pas avec Gérard Oduro là-dessus, quand il nous dit que s'il y a 10 ou 15 personnes qui vapotent en même temps, c'est aussi gênant que quelqu'un qui fume.
Ah ben, moi j'ai été à une réunion de vapoteurs une fois où j'avais été invité. Là, ils étaient dehors, au conservatoire des arts et métiers. Ils étaient 100 avec les énormes machines, même dehors.
Avec des grosses batteries qui font beaucoup de fumée, oui, c'est ce que vous voulez dire.
Même dehors, ça peut être irrespirable. Si c'est une cour fermée avec suffisamment de vapoteurs, ça peut être irrespirable. Mais par contre, au restaurant, ben, vous, c'est pas interdit. Moi, j'ai jamais vu un vapoteur me gêner au restaurant depuis quelques années. Alors qu'avant, quand il y avait des fumeurs, j'étais très malheureux au restaurant. Mais peut-être que je vais pas dans les mêmes restaurants.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Le problème, simplement, c'est que les gens croient encore qu'on ne peut pas fumer dans
un... c'est très bien.
On ne peut pas vapoter, donc autant laisser comme ça. Mais il vaudrait mieux que ce soit clair. Là, ça ne l'est pas.
Oui, non, c'est-à-dire qu'il y a une application d'un décret qui n'est pas conforme au décret, enfin qui n'est pas tout à fait conforme au décret lui-même.
Voilà.
Si je vous suis, c'est un outil médical pour arrêter de fumer, c'est comme ça que vous le voyez très rapidement.
C'est ça en partie. Moi, je l'utilise associé aux autres, aux autres médicaments. Moi, je le donne pratiquement jamais tout seul, c'est associé. Mais par contre, les gens qui vont pas voir un docteur, il y en a plein qui arrêtent avec ça. Et moi, je suis content quand les gens arrêtent par n'importe quelle méthode, ça m'en va.
Merci beaucoup, Bertrand Dotzenberg. Merci, Gérard Oduro, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Fabrice Viollet, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Le prochain débat, c'est lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.
Thank you. priorité.